Erosmose, érotisme, coquinerie, sexualité sur Osmose Radio.
Bonjour, chers petits fripons, soyez les bienvenus sur Osmose Radio. En ce jeudi après-midi, quand je dis que je suis heureux de vous retrouver, c'est pas une blague en l'occurrence. Moi, Stéphane, qui vous accueille dans votre émission consacrée à l'érotisme et à la sexualité, et Erosmose. Erosmose qui fait sa dernière émission de la saison, une saison un petit peu compliquée en ces années 2020-2021, pleine de Covid et de virus taquins, et de régisseurs talentueux, hein, n'en doutons pas, pour compenser un petit peu tout ça. Et par conséquent, j'avais envie de faire une dernière émission d'Erosmose en ce mois de juin, alors qu'on vous retrouvera, je vous retrouverai sans doute avec des thèmes un petit peu similaires que ceux que j'ai abordés dans Erosmose au mois de juillet, quand on couvrira avec mes camarades d'Osmose Radio le festival Off d'Avignon qui reprend en juillet 2021. Et par conséquent, j'avais envie de revenir sur un thème qui me tient à cœur, un thème que j'avais abordé dans une précédente émission il y a 2 ou 3 semaines, les poèmes de Charles Baudelaire, notamment Les Fleurs du Mal, parce que cette année 2021, très discrètement, entre les polémiques sur Napoléon et les polémiques sur la Commune, ça a été le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire, un artiste majeur, un poète absolument magistral du 19e siècle, mais aussi de la littérature française tout court. Et par conséquent, dans une première émission, il y a quelque temps de cela, j'avais abordé un petit peu le contexte de la création des Fleurs du Mal. Vous avez lu quelques poèmes eux-mêmes de ce recueil si singulier, et on avait parlé un petit peu de tout ça, mais par contre, par manque de temps, j'avais été obligé de faire l'impasse sur les poèmes qui avaient été interdits suite à un procès retentissant qui avait eu lieu dans 1857. Et par conséquent, aujourd'hui, je vous propose d'y revenir. Donc, une fois de plus, et une dernière fois pour cette année, je vous emmène, mes petits fripons, dans les limbes de la dépravation, au moyen de textes licencieux. Et aujourd'hui, ce sera les poèmes interdits de Baudelaire. Et un des poèmes de ce recueil, Les Fleurs du Mal, qui, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, a été mis en musique, celui-là n'avait pas été interdit, mais il résonne de manière un petit peu ironique, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Un poème qui a été mis en musique par la chanteuse suédoise Sofia Karlsson, dans une traduction dans sa langue. Du coup, ça résonne de manière un petit peu insolite à nos oreilles de français. Tout de suite, on écoute Le Vin des Amants.
Idag är livet som en dröm utan sadel, tyg och töm. På vinets rygg vi rida fort till fers och till gudars ord. Likt tvenne änglar är buna i en het delirium fantasi. Det fjärran blå vi hinna skall tvärs genom dagningens kristall. Mjukt vingen av en stormspär, lik den i våra hjärtan är. Rastlöst vi fly, o syster min. Rastlöst vi fly, o syster min. I mina drömmars himlar in. I mina drömmars himlar in. Idag är livet som en dröm utan sadel, tyg och töm. På vinets rygg vi rida fort till fers och till gudars ord. Mjukt vingen av en storm och spär, lik den i våra hjärtan är. Rastlöst vi fly, o syster min. Rastlöst vi fly, o syster min. I min drömmars himlar in. I mina drömmars himlar in.
Apparemment, les Suédois n'ont pas le vin mauvais. Enfin, si j'en crois cette interprétation du poème de Baudelaire, le vin des amants, dans une traduction en suédois, interprétée tout de suite par Sofia Carlson. Alors, le vin des amants, je pense que les plus dépravés d'entre vous auront interprété que le vin des amants, c'est le sang menstruel. Mais non, bande de gros dégueulasses, non, pas du tout. En tout cas, à l'instant, c'était une interprétation par cette chanteuse folk suédoise dans une version assez insolite, assez incongrue pour ma part, et que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en préparant cette émission. En même temps, le vin suédois, je sais pas ce que ça donne. J'ai goûté leur cidre chez Ikea, ça m'a vacciné, hein. Mais bon, ça n'engage que moi. Par contre, un truc qui nous engage tous, c'est un peu l'héritage de la littérature française telle qu'il nous est parvenue de nos jours, et un élément majeur, c'est les fleurs du mal dont je vous avais déjà parlé dans une précédente émission. J'y reviens aujourd'hui, notamment à propos des interdictions qui ont été faites à propos de ce texte-là, des censures dont il a fait l'objet plus précisément. Voilà. Et par conséquent, je voulais y revenir. Alors, on parlait du sang menstruel et on parlait du sang menstruel. Moi, c'est une analogie que je faisais moi, pardon. Le vin des amants. Le vin, c'est aussi un terme qui prête à beaucoup, beaucoup de synonymes, notamment pinard. Épinard, c'était aussi épinard. D'ailleurs, là encore un jeu de mots qui ne déplairait pas à Popeye. Mais le pinard, c'était aussi le nom du procureur qui avait fait des misères à Baudelaire en 1857. Le procureur Ernest Pinard, qui était un procureur des tribunaux du Second Empire, qui avait instruit avec succès le procès contre les fleurs du mal après avoir échoué contre le procès sur Madame Bovary quelques mois plus tôt. Parce que ce mi-temps du 19e siècle, c'était un peu une période agitée au niveau artistique, déjà par rapport au déluge de parution des auteurs romantiques. Il y a eu dans les années 1830 la bataille d'Hernani avec Victor Hugo. Bon, c'était pas judiciaire, c'était juste littéraire, mais tout de même. Après, au niveau musical, on avait aussi beaucoup brocardé Hector Berlioz, qui était un petit peu le hard rocker de l'époque, qui mettait beaucoup beaucoup de volume dans les symphonies qu'il composait. Il y avait aussi le George Sand qui s'était pris beaucoup d'opprobre et d'insultes parce que c'était une femme qui prétendait écrire avec un pseudonyme d'homme, puisque son vrai nom était Aurore Dupin. Et vous avez donc deux procès en l'année 1857. Tout d'abord Madame Bovary, procès qui a finalement été gagné par Flaubert contre donc ce triste sire Ernest Pinard. Mais quelques mois plus tard, il y a eu le procès des fleurs du mal. Alors, je ne vais pas vous donner énormément d'éléments sur cette histoire, parce que j'en ai déjà parlé un petit peu il y a 2 ou 3 semaines, mais je suis quand même obligé d'y revenir un petit peu pour vous donner des éléments de compréhension. Et c'est donc en 1857 que se passe tout ça. En 1857, il a bien passé une douzaine d'années, Baudelaire, à compiler tous ses poèmes, à les organiser, etc. Et finalement, ils sont édités en juin 1857 sous le titre « Les fleurs du mal ». « Les fleurs du mal » correspond en fait à une partie, un sous-titre, un passage en fait de l'architecture du recueil de poèmes. Vous avez les tableaux parisiens, vous avez « Spleen et idéal » et vous avez « Les fleurs du mal », par exemple. Tout ça est organisé en sous-groupes qui permettent de donner une certaine cohérence à l'ensemble de l'ouvrage tel qu'il a été voulu au départ par l'auteur. Mais il y aura bien d'autres éditions après, puisque dès juillet 1857, les journalistes dans la presse critique, les journalistes s'affolent en disant que c'est absolument scandaleux, que c'est un outrage à la fois à la religion, aux bonnes mœurs, etc. Ça fait un tollé dans la presse et dès le 4 juillet, tous les exemplaires sont saisis dans les librairies. Impossible de trouver les fleurs du mal alors que ça a été édité un mois plus tôt. Et enfin, en août, a lieu le procès et la condamnation de Charles Baudelaire et de l'éditeur à une amende de 300 francs. Pour l'époque, c'était quelque chose d'assez considérable. Une amende qui a été réduite à 50 francs après parce que Baudelaire avait écrit une lettre un petit peu larmoyante à l'impératrice Eugénie qui est intervenue en sa faveur. Mais tout de même, elle n'est pas revenue sur la condamnation. Voilà, enfin, elle n'en avait pas pouvoir non plus, vous me direz. Donc voilà, un tollé dans la presse et les chefs d'inculpation, en fait, devant ce tribunal correctionnel, étaient tout d'abord un outrage aux bonnes mœurs et par ailleurs un outrage à la morale religieuse. Alors, l'outrage aux bonnes mœurs, je tiens à préciser quelque chose, ça vient pas du code civil de Napoléon. dont on parlait un petit peu cette année à propos du bicentenaire de sa mort. Ça venait en fait de lois plus tardives qui venaient de la Restauration et donc de Charles X et ou de Louis XVIII, je sais plus. Enfin bref, c'était les lois de 1819 qui avaient étendu certains outrages, notamment au domaine religieux. Et je vous rappelle que dans la France de l'époque, aujourd'hui, ça nous paraît bizarre, ça nous paraît être un truc de djihadiste, hein, un outrage religieux. Et en fait, dans la France de l'époque, faut se souvenir que c'était le régime du Concordat et que donc la religion catholique était considérée comme intouchable parce qu'elle était voulue, en tout cas souhaitée, comme celle de la majorité des Français. Et les pasteurs, les curés et les rabbins étaient des fonctionnaires payés par l'État. Voilà. Donc tout était organisé comme ça. Ça nous paraît un peu préhistorique aujourd'hui, mais c'était la France de l'époque. Et donc par conséquent, dans le contexte de la société du Second Empire en 1857, c'est cohérent. Un outrage à la morale religieuse et un outrage aux bonnes mœurs. Alors que quand on lit avec nos yeux modernes d'aujourd'hui, ça nous paraît quand même tout ça pas bien méchant. Et finalement, ce qui est tristement banal dans cette histoire, c'est que le procès était relativement banal pour l'époque. Il n'y a pas eu un traitement de faveur pour Charles Baudelaire. Il y a plein d'artistes qui s'en sont pris plein la poire à l'époque, notamment par ce pauvre type, Ernest Pinard, qui avait échoué à faire condamner Flaubert, qui avait réussi à faire condamner Charles Baudelaire et, quelques années plus tard, avait fait des misères à un autre auteur de littérature populaire de l'époque, c'était Eugène Sue, qui avait écrit un ouvrage, qui avait écrit Les Mystères de Paris, qui avait eu un succès fabuleux dans la presse de l'époque, puisqu'il y avait les feuilletons paraissaient dans la presse à l'époque. Aujourd'hui, on le regarde sur Netflix. Et Eugène Sue avait écrit Les Mystères de Paris, qui a beaucoup influencé Victor Hugo pour Les Misérables. Et il avait aussi écrit un ouvrage, enfin une série sur les prolétaires, notamment ceux qui correspondaient un petit peu à la classe sociale de ses parents. Et pour ça, il avait été condamné par Ernest Pinard et il avait eu une condamnation posthume parce que lui-même était mort pendant le procès. Donc pour vous imaginer un peu la hargne de ce procureur-là. Mais bon, lui, son nom n'est pas resté dans l'histoire et le nom des auteurs que je viens de vous citer, eux, est resté, notamment Victor Hugo, qui avait applaudi Charles Baudelaire et qui l'avait beaucoup, beaucoup soutenu de loin, parce qu'à ce moment-là, Victor Hugo était exilé à Jersey. Mais il l'avait beaucoup soutenu, il lui avait dit que ses condamnations étaient autant de médailles sur le plastron de sa gloire devant l'histoire, etc. Enfin, vous savez, les phrases un petit peu alambiquées de ce grand barbu qu'on aime bien pourtant. Et donc, voilà, toutes les censures dont il a fait l'objet, lui ont valu déjà une certaine renommée auprès de ses contemporains. Et puis finalement, l'histoire lui a rendu justice, puisque les pièces qui ont été censurées de l'édition originale en 1857 sont reparues en 1866. C'est l'éditeur en fait qui s'était exilé à Bruxelles et qui avait fait reparaître quelques poèmes de Baudelaire et notamment les 6 pièces condamnées, dont on va parler aujourd'hui, dans un recueil qui s'appelait « Les épaves ». Alors, je sais pas pourquoi il appelait ça les épaves. Toujours est-il que c'était le nom. Et là aussi, ça fait l'objet d'un procès un petit peu plus tard, mais moins retentissant. Et enfin, en 1949, un tribunal est revenu sur les condamnations qui avaient été prononcées presque un siècle plus tôt. Et enfin, aujourd'hui, on peut trouver dans les librairies les fameux poèmes condamnés. Alors, parmi les thèmes qui avaient choqué beaucoup la bourgeoisie du cul de l'époque, il y avait notamment des thèmes liés à l'érotisme, des thèmes un petit peu morbides, toujours liés à l'érotisme dans ce que ça a des câlins entre Eros et Thanatos, pour vous le décrire ainsi. Et aussi un thème qui a été condamné et pas qu'un peu puisqu'il concerne 3 pièces sur les 6 qui ont été censurées, c'est le lesbianisme. Le lesbianisme en fait, qui est un thème qui est vieux comme Hérode, Sappho en parlait déjà durant l'Antiquité, ça existait sans doute même avant, mais c'était très 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 mal vu. Enfin, le pouvoir masculin, le pouvoir mâle n'aime pas trop que les femmes puissent se passer d'eux, hein. Et par conséquent, des femmes qui se font plaisir toutes seules, c'est très très mal vu, surtout dans la société de l'époque, que ce soit dans les faits ou que ce soit dans les arts et dans les fantasmes tels qu'ils sont décrits, notamment par Charles Baudelaire. Et je vous disais, un thème qui a été largement condamné, donc c'est le lesbianisme, qui est justement le thème du poème avec lequel on va commencer, qui s'appelle « Femme damnée ». « Femme damnée », en fait, qui est un poème où résonne une certaine ironie de Baudelaire, et pas seulement dans les figures de style qu'il utilise, parce que déjà il a la forme d'un cantique, les cantiques qui est justement une forme de l'Ancien Testament, une forme religieuse d'écriture, et un poème sur lequel il y a une légende urbaine, mais que je vous citerai peut-être plutôt tout à l'heure. Pour le moment, je vous propose d'écouter ce poème en 2 parties. Une première partie qui s'appelle tout simplement « Femme damnée », si je le retrouve, voilà, femme d'année, et une première et une seconde qui s'appelle Delphine et Hippolyte. Alors à ce sujet, en fait, là, ça décrit une scène d'amour saphique, une scène d'amour lesbienne. Et curieusement, il y a un prénom qui s'appelle Hippolyte. Et en fait, faut savoir que bon, Hippolyte pour nous, ça évoque un prénom masculin, mais pour les Grecs de l'Antiquité, et en fait, c'était le même mot, mais qui correspondait à deux prononciations différentes. Hippolyte, qui signifie d'ailleurs dans l'étymologie le dompteur des chevaux. Donc, je vous laisse imaginer le grand costaud. Et puis, il y avait l'équivalent féminin qui était Hippolouté, qui se prononçait quasiment de la même façon en grec et qui était un prénom féminin, tout ce qu'il y a de plus banal à l'époque. Et peut-être que par rapport à l'étymologie, je vous laisse aussi imaginer la force de la dame en question. Donc vous avez première partie les femmes d'année et la seconde partie même poème mais qui se sous-titre Delphine et Hippolyte et qui décrit donc une scène d'amour qui a choqué à l'époque comme je vous le disais tout à l'heure. Comme un bétail pensif sur le sable couché, elles tournent leurs yeux vers l'horizon des mers et leurs pieds se cherchant et leurs mains rapprochées ont de douces langueurs et des frissons amers. Les unes, cœur épris des longues confidences, dans le fond des bosquets où jasent les ruisseaux, vont, épelant l'amour des craintives enfances, et creusent le bois vert des jeunes arbrisseaux. D'autres, comme des sœurs, marchent lentes et graves, à travers les rochers pleins d'apparitions, où saint Antoine a vu surgir comme des laves les seins nus pourprés de ses tentations. Il en est, aux lueurs des résines croulantes, qui, dans le creux muet des vieux entre païens, t'appellent au secours de leurs fièvres hurlantes, ô Bacchus, endormeur des remords anciens. Et d'autres, dont la gorge aime les scapulaires, qui, recélant un fouet sous leurs longs vêtements, mêlent dans le bois sombre et les nuits solitaires l'écume du plaisir aux larmes des tourments. Ô Vierge, ô démon, ô monstre, ô martyr, de la réalité grands esprits contempteurs, chercheuse d'infini, dévote et satire, tantôt pleine de cris, tantôt pleine de pleurs. Vous que dans votre enfer mon âme a poursuivi, pauvre sœur, je vous aime autant que je vous plains, pour vos mornes douleurs, vos soifs inassouvies et les urnes d'amour dont vos grands cœurs sont pleins. Seconde partie, Delphine et Hippolyte. À la pâle clarté des lampes languissantes, sur de profonds coussins tout imprégnés d'odeurs, Hippolyte rêvait aux caresses puissantes qui levaient le rideau de sa jeune candeur. Elle cherchait d'un œil troublé par la tempête de sa naïveté le ciel déjà lointain, ainsi qu'un voyageur qui retourne la tête vers les horizons bleus dépassés le matin. De ses yeux amortis les paresseuses larmes, l'air brisé, la stupeur, la morne volupté, ses bras vaincus jetés comme de vaines armes, tout servait, tout parait sa fragile beauté. Étendue à ses pieds, calme et pleine de joie, Delphine la couvait avec ses yeux ardents, comme un animal fort qui surveille une proie après l'avoir d'abord marquée avec les dents. Beauté forte à genoux devant la beauté frêle, superbe, elle humait voluptueusement le vin de son triomphe et s'allongeait vers elle, comme pour recueillir un doux remerciement. Elle cherchait dans l'œil de sa pâle victime le cantique muet qui chante le plaisir et cette gratitude infinie et sublime qui sort de la paupière ainsi qu'un long soupir. Hippolyte, cher cœur, que dis-tu de ces choses ? Comprends-tu maintenant qu'il ne faut pas offrir l'holocauste sacré de tes premières roses au souffle violent qui pourrait les flétrir? Mes baisers sont légers comme ces éphémères qui caressent le soir les grands lacs transparents et ceux de ton amant creuseront leurs ornières comme des chariots ou des socs déchirants. Ils passeront sur toi comme un lourd attelage de chevaux et de bœufs aux sabots sans pitié, Hippolyte, ô ma sœur. Tourne donc ton visage, toi mon âme et mon cœur, mon tout et ma moitié. Tourne vers moi tes yeux pleins d'azur et d'étoiles, pour un de ces regards charmants, baume divin, des plaisirs plus obscurs, je lèverai les voiles, et je t'endormirai dans un rêve sans fin. Mais Hippolyte, alors, levant sa jeune tête, je ne suis point ingrate et ne me repens pas, mais Delphine, je souffre et je suis inquiète, comme après un nocturne et terrible repas. Je sens fondre sur moi de lourdes épouvantes, et de noirs bataillons de fantômes épars qui veulent me conduire en des routes mouvantes qu'un horizon sanglant ferme de toutes parts. Avons-nous donc commis une action étrange? Explique, si tu peux, mon trouble et mon effroi. Je frissonne de peur quand tu me dis « mon ange », et cependant je sens ma bouche aller vers toi. Ne me regarde pas ainsi, toi, ô ma pensée, toi que j'aime à jamais, ma sœur d'élection, quand même tu serais une embûche dressée et le commencement de ma perdition. Delphine, secouant sa crinière tragique, et comme trépignant sur le trépied de fer, l'œil fatal répondit d'une voix despotique. Qui donc devant l'amour ose parler d'enfer? Maudit soit à jamais le rêveur inutile qui voulut le premier, dans sa stupidité, s'éprenant d'un problème insoluble et stérile, aux choses de l'amour mêler l'honnêteté. Celui qui veut unir dans un accord mystique l'ombre avec la chaleur, la nuit avec le jour, ne chauffera jamais son corps paralytique à ce rouge soleil que l'on nomme l'amour. Va, si tu veux, chercher un fiancé stupide, cours offrir un cœur vierge à ses cruels baisers, et pleine de remords et d'horreur, et livide, tu me rapporteras tes seins stigmatisés. On ne peut ici-bas contenter qu'un seul maître. Mais l'enfant, épanchant une immense douleur, cria soudain : je sens s'élargir dans mon être un abîme béant, cet abîme est mon cœur. Brillant comme un volcan, profond comme le vide, rien ne rassasiera ce monstre gémissant, et ne rafraîchira la soif de l'Euménide, qui, la torche à la main, le brûle jusqu'au sang. Que nos rideaux fermés nous séparent du monde, et que la lassitude amène le repos. Je veux m'anéantir dans ta gorge profonde, et trouver sur ton sein la fraîcheur des tombeaux. Descendez, descendez, lamentable victime, descendez le chemin de l'enfer éternel. Plongez au plus profond du gouffre, où tous les crimes, flagellés par un vent qui ne vient pas du ciel, bouillonnent pêle-mêle avec un bruit d'orage. Ombre folle, courez au but de vos désirs. Jamais vous ne pourrez assouvir votre rage, et votre châtiment naîtra de vos plaisirs. Jamais un rayon frais n'éclaira vos cavernes, par les fentes des murs, des miasmes fiévreux, filtrent en s'enflammant, ainsi que des lanternes, et pénètrent vos corps de leurs parfums affreux. L'âpre stérilité de notre jouissance altère votre soif et roidit votre peau, et le vent furibond de la concupiscence fait claquer votre chair ainsi qu'un vieux drapeau. Loin des peuples vivants, errantes, condamnées, au travers des déserts, courez comme les loups. Faites votre destin à me désordonner, et fuyez l'infini que vous portez en vous. Ça commence par une éloge des amours saphiques. Et ça finit par une espèce de condamnation un petit peu moralisatrice. Vous l'aurez sans doute remarqué à la fin de ce deuxième poème, Delphine et Hippolyte. Eh bien, je vous dis pourquoi. Il y a une légende urbaine à ce propos, mais impossible de la vérifier. Il semble que les cinq dernières strophes de ce dernier poème qu'on vient d'écouter, elles ont été rajoutées in extremis juste avant la publication, en juin 57, par Baudelaire lui-même, qui avait peur que le poème Les femmes damnées, qui décrit avec énormément d'allusions, mais tout de même de façon assez explicite, des amours lesbiennes, donc des amours interdites dans la morale de l'époque, eh bien, il avait peur que ça passe pas trop au niveau de la censure, quoi. Donc du coup, il a rajouté ces cinq dernières strophes qui font un petit peu la morale à celles qui voudraient un petit peu s'égarer dans des amours interdites. Et puis bon, à supposer que ce soit vrai, parce qu'après tout, on n'en sait rien, à supposer que ce soit vrai, ben, ça n'aurait pas marché, puisqu'il a été condamné quand même deux mois plus tard. Par conséquent, voilà, je vous donne ce petit détail. Et cette petite ambiguïté, une des nombreuses qu'il cultive dans ses poèmes, Baudelaire, puisque en appelant une des deux amoureuses Hippolyte, eh bien en fait, il en fait un personnage un petit peu androgyne, puisque certes, aux yeux des Grecs de l'Antiquité, ça pouvait être un prénom féminin, mais pour nous, Français de contemporains, eh bien ça résonne comme un prénom masculin. Et par conséquent, ben, il semble qu'il se soit un petit peu projeté un peu de lui-même, en tout cas, dans ce personnage androgyne qui vit une amour interdite. Voilà, c'est pour le petit détail croquignolesque à propos de ce premier poème qu'on a écouté ensemble, chers amis, et qui dit lesbianisme, ça vient, en fait, le terme lesbianisme vient de l'île de Lesbos, où écrivait la poète Sappho et professait aussi cette femme de l'Antiquité classique. Je crois qu'elle était elle a vécu au 4e siècle avant Jésus-Christ, et dont on connaît un petit peu les amours envers d'autres femmes par rapport au poème qu'elle-même nous a laissé. Et par conséquent, je vous propose de faire une première pause musicale avec un de ces poèmes qui a été mis en musique par Francesca Nicoli du groupe Ataraxia. On écoute tout de suite A Perlae. qu'est-ce que j'aime ce morceau. C'est un extrait de l'album Lost Atlantis qui était sorti en 98-99 dans ces eaux-là. Et c'était un poème de Sappho qui avait été traduit et mis en musique par Francesca Nicoli du groupe italien Ataraxia qu'on écoutait à l'instant. Alors le morceau dure un peu plus de 10 minutes. J'avais pas le cœur à vous le passer en entier parce que j'ai encore plein de poèmes à vous lire, chers amis. Et dans le premier poème qu'on a lu ensemble dans cette émission d'Erosmose, eh bien c'était Femme d'année, qui est clairement une allusion aux amours saphiques et au lesbianisme. Et le deuxième qu'on va lire dans l'émission d'aujourd'hui est encore plus explicite puisqu'il tout ça s'appelle tout simplement Lesbos, qui était le nom de l'île qu'occupait Sappho à l'époque avec ses amis et certaines à Itaïr par exemple. Aujourd'hui ça nous évoque plutôt l'île sur laquelle arrivent les migrants arrivant de Syrie, hein, mais bon, autre temps, autre mœurs comme on dit. Et toujours est-il qu'à l'époque ça avait un petit peu cette réputation là de d'amour libre, en fait, d'île où les amours étaient libres. Et une île par définition, c'est un endroit où on est un petit peu plus libre que sur les continents en général, du fait qu'on est plus isolé. Et c'est quelque chose d'un thème qui est assez récurrent dans les thèmes mythologiques, hein. Je pense à l'embarquement à Cythère par exemple, qui a si souvent été illustré par les artistes du 17e, 18e siècle notamment, et qui évoque un petit peu un départ joyeux en barque pour une île où on peut faire des bacchanales sans être emmerdé par la police des mœurs, par exemple, déjà, qui existait à l'époque romaine. Et Lesbos, hein, parfois, peut-être encore, avait encore pour les gens du 19e siècle, cette réputation-là, cette aura de liberté sexuelle que Charles Baudelaire avait illustré dans ce poème des Fleurs du Mal qu'on va écouter tout de suite. Lesbos. Mère des jeux latins et des voluptés grecques, Lesbos, où les baisers languissants ou joyeux, chauds comme les soleils, frais comme les pastèques, font l'ornement des nuits et des jours glorieux. Mère des jeux latins et des voluptés grecques. Lesbos, où les baisers sont comme les cascades, qui se jettent sans peur dans les gouffres sans fond, et courent, sanglotant et gloussant par saccades, orageux et secrets, fourmillant et profond. Lesbos, où les baisers sont comme les cascades. Lesbos, où les frinées l'une l'autre s'attirent, où jamais un soupir ne resta sans écho, à l'égal de Paphos les étoiles t'admirent, et Vénus à bon droit peut jalouser Sappho. Lesbos, où les frinées l'une et l'autre s'attirent. Lesbos, terre des nuits chaudes et langoureuses, qui font qu'à leur miroir, stérile volupté, les filles aux yeux creux de leurs corps amoureuses caressent les fruits mûrs de leur nubilité. Lesbos, terre des nuits chaudes et langoureuses. Laisse du vieux Platon se froncer l'œil austère. Tu tires ton pardon de l'excès des baisers, reine du doux empire, aimable et noble terre, et des raffinements toujours régnés puisés. Laisse du vieux Platon se froncer l'œil austère. Tu tires ton pardon de l'éternel martyr, infligé sans relâche aux cœurs ambitieux, qu'attire loin de nous le radieux sourire, entrevu vaguement au bord des autres cieux. Tu tires ton pardon de l'éternel martyr. Qui des dieux osera, Lesbos, être ton juge, et condamner ton front pâli dans les travaux, si ces balances d'or n'ont pesé le déluge de larmes qu'à la mer ont versé les ruisseaux? Qui des dieux osera, Lesbos, être ton juge? Que nous veulent les lois du juste et de l'injuste, vierges au cœur sublime, honneur de l'archipel, votre religion comme une autre est auguste, et l'amour se rira de l'enfer et du ciel. Que nous veulent les lois du juste et de l'injuste? Car Lesbos entre tous m'a choisi sur la terre, pour chanter le secret de ces vierges en fleurs, et je fus dès l'enfance admis au noir mystère, des rires effrénés mêlés aux sombres pleurs. Car Lesbos entre tous m'a choisi sur la terre. Et depuis lors, je veille au sommet de Leucate, comme une sentinelle à l'œil perçant et sûr, qui guette nuit et jour brique, tartane ou frégate, dont les formes au loin frissonnent dans l'azur. Et depuis lors je veille au sommet de Leucate. Pour savoir si la mer est indulgente et bonne, et parmi les sanglots dont le roc retentit, un soir ramènera vers Lesbos, qui pardonne, le cadavre adoré de Sappho qui partit, pour savoir si la mer est indulgente et bonne. De la mâle, Sappho, l'amante et le poète, plus belle que Vénus par ses mornes pâleurs, l'œil d'azur est vaincu par l'œil noir que t'achète le cercle ténébreux tracé par les douleurs. De la mâle, Sappho, l'amante et le poète. Plus belle que Vénus se dressant sur le monde et versant les trésors de sa sérénité et le rayonnement de sa jeunesse blonde sur le vieil océan et sa fille enchantée, plus belle que Vénus se dressant sur le monde. De Sappho qui mourut le jour de son blasphème, quand, insultant le rite et le culte inventé, elle fit de son beau corps la nature suprême d'un brutal dont l'orgueil punit l'impiété, de celle qui mourut le jour de son blasphème. Et c'est depuis ce temps que Lesbos se lamente, et malgré les honneurs que lui rend l'univers, s'enivre chaque nuit du cri de la tourmente, que pousse vers les cieux et ses rivages déserts. Et c'est depuis ce temps que Lesbos se lamente. Voilà, une sororité en quelque sorte, de femmes telles qu'elles ont pu peut-être exister à l'époque et auxquelles faisait allusion Charles Baudelaire dans ce poème qu'on écoutait à l'instant, Lesbos, dans lequel vous aurez peut-être reconnu une rupture de rythme, enfin quelque chose d'assez étrange qu'on appelle une antépiphore, c'est-à-dire qu'au début et à la fin de chaque strophe, il met le même vers qui est répété et qui donne une espèce d'impression un petit peu hypnotique qui n'est pas sans rappeler certains autres de poèmes du recueil, puisque je pense notamment aux litanies de Satan. « Ô Satan, prends pitié de ma longue misère » qui est répétée tout au long du poème et qui crée un petit peu un effet étrange et parfois même angoissant. Voilà. Et par conséquent, donc Lesbos, c'était un petit peu le même procédé qui a été utilisé avec cette figure de style que j'ai découvert en préparant cette émission, l'antépiphore. Voilà. On utilise le même vers au début et à la fin de la strophe. Voilà pour ce qui est des poèmes qui ont été consacrés au thème du lesbianisme et qui ont été condamnés et interdits notamment par la justice dans le recueil Les Fleurs du Mal. Et aujourd'hui, on voit plus ça d'un œil trop méchant, encore qu'il y a toujours des excités. Et d'ailleurs, en ce mois de juin 2021, c'est pareil que c'est le mois des fiertés pour ceux qui sont concernés, pour la communauté homosexuelle. Et donc, on n'a plus vraiment d'animosité envers les gays de nos jours, en tout cas pour la plupart des gens. Et ça tombe bien parce qu'il y a un poème de Baudelaire qui, lui, n'avait pas plu du tout à l'époque et qui s'appelle « À celle qui est trop gay ». Voilà, mais pas gay comme tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est celle qui fait preuve d'un petit peu trop de gaieté, qui rit un petit peu trop fort. Je vous rappelle que dans les cours pénales du 19e siècle, il y avait des mecs qui se justifiaient d'avoir violé une fille. Pourquoi ? Parce qu'elle riait, ils l'avaient croisée au parc et elle riait trop fort. Donc une femme qui rit trop fort, c'est une femme disponible, une femme légère, et du coup on peut en abuser. Voilà, je vous assure que ce genre de témoignage existe dans les archives judiciaires. Et donc c'est peut-être un petit peu ce à quoi pensait Charles Baudelaire quand il a écrit ce poème « À celle qui est trop gay » que j'ai quelques scrupules à vous réciter aujourd'hui parce que on parle beaucoup de féminicide, un terme un peu pudique pour parler de meurtres absolument odieux de femmes souvent innocentes d'ailleurs, dans 99% des cas, et quand même elles seraient coupables de quoi que ce soit, c'est pas à leur bonhomme de faire justice eux-mêmes. Et par conséquent, c'est vrai que c'est un thème qui est un peu récurrent de nos jours, bien qu'il y en ait beaucoup moins de nos jours qu'il y en a eu à l'époque de Baudelaire, et heureusement, ça s'appelle le progrès, et bien malgré tout, il y en a toujours trop. Et pour autant, il y a régulièrement dans la psyché masculine ce fantasme d'abuser de sa force et d'aller jusqu'au crime suprême qui est le meurtre. Et c'est un petit peu ce qui est illustré à mots couverts dans le poème qu'on va écouter tout de suite, qui a un titre assez léger, mais qui pourtant est loin de l'être, comme vous allez le voir tout de suite. À celle qui est trop gaie. Ta tête, ton geste, ton air sont beaux comme un beau paysage. Le rire joue en ton visage comme un vent frais dans un ciel clair. Le passant chagrin que tu frôles est ébloui par la santé qui jaillit comme une clarté de tes bras et de tes épaules. Les retentissantes couleurs dont tu parsèmes tes toilettes jettent dans l'esprit des poètes l'image d'un balai de fleurs. Ces robes folles sont l'emblème de ton esprit bariolé, folle dont je suis affolé, je te hais autant que je t'aime. Quelquefois, dans un beau jardin, où je traînais mon atonie, j'ai senti, comme une ironie, le soleil déchirer mon sein. Et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur que j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature. Ainsi, je voudrais une nuit, quand l'heure des voluptés sonne, vers les trésors de ta personne comme un lâche rampé sans bruit. Pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné, et faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse, et, vertigineuse douceur, à travers ces lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, t'infuser mon venin, ma sœur. Voilà, ça fait froid dans le dos sur la fin. En tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait à moi, puisqu'on y trouve à la fois la violence du meurtre et l'ordure du viol dans ce poème qui forcément avait tout pour choquer encore aujourd'hui et qui a carrément été condamné il y a de cela un petit peu plus de 100 ans. Enfin, un petit peu moins de 100 ans, pardon. Dans le recueil Les Fleurs du Mal. Voilà, chers amis. Et il y a encore des gens aujourd'hui hein, pour commettre l'irréparable quand ils croisent, quand ils n'arrivent pas à contrôler leur libido, quand ils croisent une fille qui est trop, qui rit trop fort, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est trop gay, comme c'était le titre du poème qu'on écoutait à l'instant. Et pourtant, ces femmes libres, ben on a tout lieu de s'en enorgueillir parce qu'une société dans laquelle les femmes sont libres et joyeuses, et ben à titre personnel, je les trouve d'autant plus bandantes. Et c'était peut-être aussi le cas de Léo Ferré quand il a composé cette chanson qu'il avait écrite pour Juliette Gréco. Jolie môme.
T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. T'as la rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, jolie môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, jolie môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, jolie môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vamp qu'on éteint comme une lampe au matin, jolie môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, jolie môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, jolie môme. Ta barrière de froufrou, ah, faut se la faire, mais c'est doux, jolie môme. Ta violette et le violon qu'on violente, et c'est bon, jolie môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, jolie môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, jolie môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker à des conquêtes, jolie môme. T'as qu'une rime au bonheur, ah faut que ça rime ou que ça pleure, jolie môme. T'as qu'une source au milieu qu'éclabousse du bon Dieu, jolie môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, jolie môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, jolie môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller et va chez lui la retrouver, jolie môme. T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma boule. Jolie môme.
Elle et ceux qui l'entouraient savaient de quoi il parlait, puisque Juliette Gréco était effectivement une très jolie môme à l'époque où elle chantait cette chanson, notamment encore qu'elle était encore très belle quand elle nous a quittés il y a quelques années, hélas. Voilà. Léo Ferré, en fait, c'était une chanson à l'instant qu'on écoutait, qui était de Léo Ferré, qui lui-même avait mis en musique quelques poèmes de Baudelaire, notamment celui qu'on va écouter tout de suite qui s'appelle Les bijoux. Là encore, un thème, enfin, les bijoux en soi, ça n'a absolument rien de répréhensible comme thème, mais la façon dont Baudelaire l'a utilisé dans ce poème, par contre, lui a déchaîné un petit peu de quelques insultes du fait que ça évoque un petit peu les bijoux. Quand les femmes sont dévêtues de tous leurs vêtements, elles ont encore souvent leurs bijoux. Alors soit celles qui faisaient usage de leur corps pour gagner leur vie, par exemple, et que Baudelaire savait avoir fréquenté, mais bon, les bourgeois qui le condamnaient, il l'avait fait aussi, hein, c'est juste qu'il ne voulait pas l'admettre. Ou bien c'était les femmes venant d'autres contrées lointaines, les orientales ou les africaines, par exemple, et l'orientalisme était un thème assez fort dans la production artistique de l'époque, hein, je pense. Vous pensez à l'orientalisme qui imprègne les tableaux de Delacroix, d'Ingres, etc., dans la première moitié du 19e siècle. Et donc tout ça infuse un petit peu dans le poème qu'on va écouter tout de suite, qui s'appelle Les bijoux et qui a été condamné, et vous allez comprendre pourquoi. La très chère était nue, et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores. Dans le riche attirail lui donnait l'air vainqueur qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée et se laissait aimer. Et du haut du divan, elle souriait d'aise à mon amour profond et doux comme la mer qui vers elle montait comme vers sa falaise. Les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait des poses et la candeur unie à la lubricité donnait un charme neuf à ses métamorphoses. Et son bras, et sa jambe, et sa cuisse, et ses reins, polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, passaient devant mes yeux, clairvoyants et sereins. Et son ventre et ses seins, ses grappes de ma vigne, s'avançaient plus câlins que les anges du mal, pour troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger du rocher de cristal où, calme et solitaire, elle s'était assise. Je croyais voir unies par un nouveau dessin les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe, tant sa taille faisait ressortir son bassin. Sur ce teint fauve et brun, le phare était superbe. Et sa lampe s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre, chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'ambre. On ne saura pas ce qui s'est passé par la suite, parce qu'après tout, hein, c'est la vie privée, mais on aime à croire qu'après cette description, Baudelaire a connu une folle nuit d'amour, comme j'en souhaite à tout le monde. Hein. Et c'était voilà ce poème, Les Bijoux, dans lequel certains d'entre vous auront peut-être vu un petit clin d'œil à un texte biblique, le Cantique des Cantiques, quand il fait une allusion à son ventre et ses seins, ses grappes de ma vigne. Ça fait vraiment penser à la poésie du roi Salomon dans le Cantique des Cantiques, quand il compare les seins de son aimé avec des métaphores liées à la végétation, à la nature et à l'abondance de Dame Nature quand elle daigne l'être, bien entendu. Voilà. Eh bien, tiens, les bijoux sonores, c'était donc ce qui a inspiré Baudelaire pour ce poème. Il y a aussi des bijoux olfactifs. Je pense notamment à Marilyn Monroe qui, dans une interview, avait dit que elle ne portait pour dormir qu'une goutte de guerlain dans les cheveux. Donc voilà, c'était une allusion assez coquine et qui a traversé l'histoire parce qu'on s'en souvient encore. Et si votre copine à vous aussi aime dormir nue avec juste une goutte de parfum pour des nuits pleines de promesses, hein, eh bien c'était un petit peu aussi peut-être ce que Serge Gainsbourg avait ressenti à l'époque où il était amoureux de Brigitte Bardot dans cette chanson qu'on va écouter tout de suite, Initials BB.
J'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est potée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guerlain dans les cheveux. Thank you. mouvement, on entendait les clochettes d'argent de ses paniers. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot « Almeria ».
Initials BB, Serge Gainsbourg, qu'on écoutait à l'instant, qui résonne, en tout cas à mes oreilles, qui résonne avec le poème de Baudelaire, Les bijoux, qu'on écoutait précédemment. Voilà, chers amis, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Vous êtes bien sur Osmose Radio, dans Erosmose avec Stéphane. Aujourd'hui, on consacre une dernière émission consacrée à l'érotisme et à la sexualité, comme à notre habitude. Et le sujet, plus particulièrement aujourd'hui, c'est les poèmes de Charles Baudelaire, les poèmes qui avaient été interdits dans Les Fleurs du Mal à la suite du procès de 1857. On les avait évoqués dans une précédente émission et on les écoute ce coup-ci. Et donc voilà, on est dans une deuxième partie d'émission. On va écouter deux derniers poèmes. Évidemment, si vous avez loupé la première partie, vous pouvez la retrouver sur le site d'osmose-radio.fr. Voilà, chers amis. Je vous disais, l'érotisme était la raison majeure, la raison principale pour laquelle ces poèmes avaient été censurés, ces six poèmes avaient été censurés du recueil Les Fleurs du Mal en 1857. Certains qui avaient qui résonnaient trop fort aux yeux des gens de l'époque avec des allusions au lesbianisme, d'autres par rapport à où l'érotisme était un petit peu trop explicite, comme dans ce dernier poème, Les Bijoux. Mais il y avait aussi des thèmes qui mettaient là encore mal à l'aise les gens de l'époque, enfin les gens puissants de l'époque, les décideurs de l'époque, notamment se lier à l'oubli, au paradis artificiel que Charles Baudelaire avait déjà exploré, comme lui, Théophile Gautier, tant d'autres, hein, avaient exploré un petit peu le sujet de l'écriture sous l'influence de la drogue, puisque à l'époque on découvrait des drogues qui étaient nouvelles pour l'époque, comme le haschich par exemple. Il y avait le vin qui existait depuis fort longtemps en France, bien entendu, mais il y a eu d'autres drogues exotiques qui sont arrivées et que ont expérimenté les gens de cette période, et ça a pu donner des idées parfois de comment dirais-je, un petit peu étranges aux auteurs de l'époque, notamment à Baudelaire, qui avait revu et corrigé les thèmes, là encore des thèmes qui nous viennent de la mythologie grecque et de l'Antiquité, le thème de l'oubli par exemple, dont la déesse était l'été, qui avait donné aussi son nom à un fleuve un fleuve qui parcourait les enfers, donc le royaume d'Hadès, qui était aussi le Léthé. C'était le fleuve de l'oubli. Et donc, à l'aune de ces expériences psychédéliques, Baudelaire avait revu un petit peu ce thème de l'oubli, dans ce poème, le Léthé, qu'on va écouter tout de suite et avec lequel il avait eu des soucis à l'époque. Le Léthé. Viens sur mon cœur, âme cruelle et sourde, tigre adoré, monstre aux airs indolents. Je veux longtemps plonger mes doigts tremblants dans l'épaisseur de ta crinière lourde. Dans tes jupons remplis de ton parfum, ensevelir ma tête endolorie et respirer comme une fleur flétrie le doux relent de mon amour défunt. Je veux dormir, dormir plutôt que vivre dans un sommeil aussi doux que la mort. J'étalerai mes baisers sans remords sur ton beau corps poli comme le cuivre. Pour engloutir mes sanglots apaisés, rien ne me vaut l'abîme de ta couche. L'oubli puissant habite sur ta bouche et le Léthé coule dans tes baisers. À mon destin désormais, mon délice, j'obéirai comme un prédestiné. Martyr docile, innocent condamné, dans la ferveur attise le supplice. Je sucerai pour noyer ma rancœur le népenthès et la bonne ciguë. Au bout charmant de cette gorge aiguë qui n'a jamais emprisonné de cœur. Là, vous avez un cocktail entre les thèmes des paradis artificiels, de l'oubli, de la drogue en quelque sorte, le thème de l'exotisme et enfin le thème de la sensualité qui avait déjà choqué dans ses précédents poèmes, le Léthé qui était la déesse de l'oubli dans la mythologie grecque et qui était aussi le fleuve qui parcourait les enfers, le royaume d'Hadès, le fleuve de l'oubli. En France, on n'a pas de fleuve comme ça, on a la Loire qui est aussi un fleuve capricieux et qui aura inspiré le groupe Collection d'Arnel Andrea qui est originaire de ces régions de l'ouest de la France puisqu'il compare dans ce titre qu'on va écouter ensemble, la Loire et le Léthé. Un morceau instrumental, je sais plus quel album c'était de Collection d'Arnel Andrea. C'était un album qu'ils avaient fait où ils utilisaient uniquement leurs instruments acoustiques, voilà, pour reprendre un petit peu en arrangement symphonique certaines des compositions qu'ils avaient écrites pour des thèmes qui leur tiennent à cœur, notamment la région dont ils sont originaires et les thèmes un petit peu intemporels comme le Léthé, le fleuve de l'oubli, et c'était notamment l'objet du morceau qu'on écoutait à l'instant, Collection d'Arnel Andrea, Loire et Léthé. On arrive à la fin de l'émission, chers amis. Et on arrive au dernier poème de cette série de 6 qui avait été censuré au moment de l'apparition des Fleurs du Mal. Et je vous disais, alors, c'était surtout des thèmes liés à l'érotisme, qui est un petit peu le sujet majeur dans Erosmos, donc c'est un petit peu normal que je vous en parle. Il y avait eu d'autres thèmes, comme les paradis artificiels qu'on a évoqués dans le poème précédent, le Léthé, les paradis artificiels qui nous amènent à l'oubli, parfois bienvenus, mais dans lesquels on se damne aussi. Et enfin, il y a une caricature en fait de personnage fantastique qui commençait à avoir beaucoup de succès à l'époque, c'était le thème du vampire. Le vampire qui était apparu à la fin du XVIIIe siècle, notamment chez Goethe, il me semble, qui ensuite, dans la première partie du XIXe siècle, a fait l'objet de quelques nouvelles, notamment à partir de croyances et superstitions populaires qui avaient lieu dans des lieux dont on commençait à entendre parler à l'époque, grâce à la presse notamment, qui se démocratisait beaucoup. Je pense aux superstitions d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, qui dans lesquelles il y a un peu des mythes liés aux vampires ou aux Nosferatu, enfin je sais pas, ça dépend comment on les appelle, dans les régions susnommées. Et par conséquent, le vampire était un personnage qui prenait son essor à l'époque, déjà avant même que Bram Stoker écrive Dracula en 1897, ou que Sheridan Le Fanu, une vingtaine d'années avant, écrive Carmilla d'ailleurs. Donc Baudelaire n'a pas été inspiré de ces auteurs anglo-saxons-là. Quand bien même, il aimait la littérature anglo-saxonne, puisqu'après tout, il avait traduit Edgar Allan Poe. Donc, on sait que Baudelaire aimait la littérature fantastique pour en avoir traduit de ce grand auteur américain. Mais il pouvait pas, pour des raisons chronologiques évidentes, avoir été influencé par la nouvelle Carmilla de Sheridan le Fanu, l'auteur irlandais qui mettait en scène une amour saphique par le prisme de ce personnage fantastique, le vampire. Et par conséquent, bien avant même ça, les auteurs du 19e siècle, et notamment en France, étaient inspirés par le personnage du vampire qui est au carrefour de différents fantasmes humains. La peur du sang, la peur de la contamination, on en sait quelque chose en ces périodes de Covid. Les amours interdits aussi, hein, que ce soit des amours entre hommes et femmes ou des amours entre femmes. Et différents thèmes liés à la psychanalyse qui n'existait pas encore à l'époque, à l'histoire par rapport au conte Dracula qui viendra un petit peu plus tard dans la littérature, et par rapport aux mythes, et que ce soit aux mythes de l'Antiquité ou que ce soit plutôt aux traditions et superstitions populaires telles qu'on connaissait, à mieux les connaître à l'époque. Et par conséquent, pour tout ça, Baudelaire a été inspiré par le personnage du vampire qui peuple certains de ses poèmes, et notamment ceux de Recueil les fleurs du mal, notamment celui avec lequel on va conclure, Les métamorphoses du vampire. La femme, cependant, de sa bouche de fraise, en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise, et pétrissant ses seins sur le fer de son busque, laissant couler ses mots tout imprégnés de musc. Moi, j'ai la lèvre humide, et je sais la science de perdre au fond d'un lit l'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants, et fais rire les vieux du rire des enfants. Je remplace pour qui me voit nu et sans voile la lune, le soleil, le ciel et les étoiles. Je suis, mon cher savant, si docte aux voluptés lorsque j'étouffe un homme en mes bras redoutés que lorsque j'abandonne aux morsures mon buste timide et libertine et fragile et robuste que sur ces matelas qui se pâment des mois les anges impuissants se damneraient pour moi. Quand elle eut de mes os sucé toute la moelle et que languissamment je me tournai vers elle pour lui rendre un baiser d'amour, je ne vis plus qu'une noutre aux flancs gluants toute pleine de pus. Je fermai les deux yeux dans ma froide épouvante, et quand je les rouvris à la clarté vivante, à mes côtés, au lieu du mannequin puissant qui semblait avoir fait provision de sang, tremblaient confusément des débris de squelettes, qui de même rendaient le cri d'une girouette ou d'une enseigne au bout d'une tringle de fer que balance le vent pendant les nuits d'hiver. Voilà, donc l'amour et la mort auront rarement été aussi bien illustrés que dans ce poème où on côtoie tout d'abord une femme voluptueuse et enfin un cadavre pourrissant. C'était donc ça qui a sans doute attiré l'opprobre sur Charles Baudelaire dans ce poème. Alors, pour donner un petit mot de conclusion, avant d'envoyer le morceau de fin de cette émission, et de vous dire au revoir et à l'année prochaine, chers amis, quelques mots de conclusion sur la défense de Baudelaire pendant ce procès. Lui avait écrit des poèmes épars pendant une 10-15 ans, les avait mis de côté dans un coin de sa chambre en attendant de les éditer plus tard. Et finalement, au moment de la parution des Fleurs du Mal, il avait réussi à les organiser en quelque chose de cohérent, c'était quelque chose qui vraiment lui tenait à cœur. Et par conséquent, il avait organisé tout ça donc en fonction déjà par exemple de ses promenades dans les rues de Paris, il avait fait des tableaux parisiens. En fonction de ses états d'âme, ses envies de voyage, tout ça, il avait écrit Spleen et Idéal. En fonction des thèmes qui le travaillaient, l'amour, la mort, il avait écrit Les Fleurs du Mal, qui est un passage du recueil lui-même, Les Fleurs du Mal, etc., etc. Et par conséquent, un des arguments de sa défense pendant le procès, ça avait été de dire, oui, certes, vous trouvez certains de mes poèmes immoraux ou outrageants, mais dites-vous bien qu'en la lecture complète de l'ouvrage contient en elle-même une morale et qui fait que les poèmes se compensant en quelque sorte les uns les autres, vous pouvez en tirer vous-même une morale qui correspond à celle que vous voulez répandre dans la société. Son argument n'aura pas fait mouche, sauf auprès de l'impératrice Eugénie auquel il avait écrit en ces termes un petit peu plus tard et qui avait réduit son amende, mais il avait bel et bien été condamné et par conséquent il n'y a que depuis 1949 qu'on peut trouver dans les librairies les 6 poèmes que je vous aurai récités aujourd'hui, voilà, chers amis. Et donc, le vampire était un des personnages majeurs. Les vampires, c'était un petit peu peut-être aussi la préscience ou un personnage un petit peu prémonitoire de ceux qui allaient lui sucer le sang en lui donnant une amende, hein, allez donc savoir. Toujours est-il que le vampire, bah, c'était un des personnages qui avait travaillé Baudelaire lors de l'écriture de ses poèmes, et c'est aussi le personnage qui inspirait beaucoup de musiciens, notamment Sopor Eternus, Anna Cantodea Vernet, notamment dans ce projet musical Sopor Eternus and the Ensemble Shadows, qui a elle-même, elle ou lui, je sais pas trop parce que c'est un personnage androgyne, qui a elle-même l'apparence du vampire, l'apparence d'une créature étrange, et qui avait rendu hommage au recueil de Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, dans un album qui s'appelait qui avait le même nom, et dans ce morceau éponyme avec lequel on va conclure cette émission aujourd'hui, mes petits fripons. Voilà, ce sera avec Les Fleurs du Mal de Sopor Eternus que je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous au mois de juillet pour le Festival Off et à l'année prochaine pour une nouvelle édition, une nouvelle saison d'Erosmose. Restez sur Osmose Radio, bisous, à bientôt.
myself. Deprivation in answer to my hesitation is parting the branches as we move. I dare a smiling shy excuse. How does he know the ghosts I track? The dreadful ending I expect. The boyish hand of this old maid in secrets guarded by her face.
Ancient grave.